Bonsoir. Bienvenue à l'émission La Voix de la librairie, enregistrée en direct de la librairie Saint-Jean-Baptiste, située au 565 rue Saint-Jean à Québec. Mon nom est Catherine Doré et tous les premiers lundis du mois, je viens vous parler de livres dont on n'entend pas parler ailleurs et de spectacles que l'on ne voit pas ailleurs. Ce mois-ci, en effet, je dois dire qu'on a une émission assez éclectique, mais on va vous parler principalement de deux écrivains qui sont aussi des personnages assez originaux. Il s'agit de deux Britanniques d'origine irlandaise qui ont chacun marqué leur époque de manière fort différente. Alors d'abord, il y a Jean-Philippe qui va nous entretenir de Jonathan Swift. Swift, c'est un satiriste et un pamphlétaire politique qui a vécu à la fin du 17e et au début du 18e siècle. Vous le connaissez sans doute par son très célèbre « Voyage de Gulliver ». Mais Jean-Philippe va nous parler d'un de ses textes moins connus et qui a été désigné comme la pierre angulaire de l'humour noir par nul autre que Isaac Asimov. Ensuite, nous aurons la chronique de Mylène qui va nous parler de la figure du Waldganger. Et vous allez découvrir que c'est un concept absolument fascinant qui a été créé par Ernst Junger en 1951 et qui est assez étonnamment plus actuel que jamais. Nous avons aussi aujourd'hui à la librairie, un artiste invité, et pas n'importe quel artiste. On pourrait dire que c'est l'artiste emblématique de la librairie. Il s'agit de Gab Paquette. C'est celui qui a composé la musique thème de notre émission, et c'est aussi un artiste qu'on a toujours plaisir à voir en spectacle à la librairie. Il nous présentera d'ailleurs ce soir son spécial Saint-Valentin. Et nous aurons l'honneur, ou du moins le bonheur, d'avoir une prestation live d'une de ses chansons à l'émission. Enfin, en compagnie de Roxane, on va effectuer une plongée au Moyen-Orient, au début du siècle dernier, au moment où régnait l'Empire ottoman sur toute cette partie du monde. Et on verra comment un célèbre aventurier britannique a participé à la chute de cet empire et a permis le redécoupage actuel. Dans un livre peu connu, il raconte ses mémoires. C'est à la fois un espion, un aventurier, un fin stratège et un philosophe. Vous avez déjà peut-être entendu son nom, il s'agit de Sir Thomas Edward Lawrence. En conclusion de l'émission, comme à l'habitude, notre libraire, David, fera la lecture d'un texte. Ce mois-ci, il lira le pamphlet de Jonathan Swift, dont il aura été question plus tôt dans l'émission avec Jean-Philippe. Mais D'abord, en tout début d'émission, je vais accueillir un ami de la librairie qui est aussi un collaborateur régulier du journal Droit de parole et qui vient de lancer son premier recueil de textes vendredi dernier ici même à la librairie. Il s'agit de Renaud Pilote qui va nous lire un texte tout à l'heure. Juste après la petite pause musicale qu'on va faire, on va écouter d'abord la chanson « La caissière populaire » de Richard Desjardins et on vous revient après la pause.
La caissière populaire relève sa robe et me montre son guichet automatique. Elle m'avertit que j'ai besoin de deux pièces d'identité. Bon. Je baisse mes pantalons et je lui montre ma carte de guichet. Elle la tourne, la retourne dans ses mains. Elle dit, elle est très belle, mais ce n'est pas assez. Bon. J'enlève mon chandail et je me plonge la main droite dans la poitrine. Je m'arrache le cœur que je dépose encore chaud et battant sur son comptoir. Elle le prend dans ses mains, le tourne, le retourne. Il me dit, il n'y a pas de signature, il faut quelque chose avec la signature. Bon. Je m'arrache les dentiers et je les lance vers la caissière populaire qui les attrape et qui se les met sur la tête comme une couronne de reine de carnaval. Elle pleure, je meurs. Maintenant j'ai un masque de gardien de but et j'ai une grosse hache qui brille comme sa couronne de carnaval et c'est un vendredi 13 dans la très belle ville de Québec. Mon masque a un smile que seul la mort peut satisfaire. Et je lève très haut la hache dans les airs. Et j'ai dit, c'est pour un départ.
Sans s'en vanter outre mesure, nous pouvons maintenant nous féliciter d'avoir assimilé, grosso modo, le fonctionnement des guichets automatiques. Voilà un certain nombre d'années, 10, 15 peut-être, que progressivement, De moins en moins d'andouilles bloquent la file et que nos livrets sont de mieux en mieux tenus à jour. L'habitude faisant son œuvre, nos visites ont gagné en efficacité et l'arrivée d'une option telle que le retrait rapide sans relevé est révélatrice non pas tant de notre conscience écologique mais de notre désir d'épurer nos rapports avec le guichet automatique pour qu'ultimement, bien sûr, nous puissions décamper au plus vite. Retrait et dépôt ayant été adéquatement retirés et déposés, on admettra qu'il n'y a alors plus grand-chose de passionnant à relater au sujet du guichet automatique. Essayons quand même, cela pourra peut-être stimuler quelques humoristes en manque d'inspiration. Exemple. L'hiver, le tapis d'attente est complètement imbibé de slush et ça fait squish, squish. Ou attention de ne pas lécher les nouvelles enveloppes de dépôt autocollantes. L'amertume dure 3 jours. Voire même, je raconte toujours les billets de 20$ au cas, le billet de 20$ sorti de la machine au cas où il y en aurait un bonus, même si ça m'est jamais arrivé. Ou, excusez-la, dans la file, en attendant qu'un guichet se libère, je ris de nous imaginer en attente d'un urinoir. Que voulez-vous? Aller au guichet est tellement rendu automatique qu'il faut bien savoir meubler le silence entre 2 bips de nip. Ne sachant plus donc quoi inventer pour agrémenter nos banales transactions quotidiennes, les institutions bancaires ont ajouté récemment une puce, soi-disant savante, à même les cartes de débit. L'insecte discret, propre, docile, affectueux et surtout inclonable seconde désormais en fait de bidule une bande magnétique qui, paraît-il, ne suffisait plus à la tâche, la pauvre. Nos avoirs se voient ainsi 2 fois mieux protégés contre d'insatiables hordes de fraudeurs qu'une puce à l'oreille leur aura permis de deviner tous nos mots de passe. Ne reste que le problème de la carte en tant que telle qui, puce pas puce, s'oublie toujours très facilement dans la fente du guichet automatique. À quand la puce directement intégrée au cuir chevelu, serons-nous bientôt tentés de nous dire, exaspérés par l'attente au téléphone pour obtenir le service d'annulation des cartes perdues. Alors seulement, nous pourrons dire que l'on conjuguera véritablement avoir et être.
C'était le guichet automatique de Renaud Pilote. Bonsoir, Renaud. Alors, Renaud, tu viens tout juste de faire le lancement d'un recueil de textes qui s'intitule « Les Renauderies, chronique urbaine, petite chronique urbaine ».
Oui.
C'est ton premier livre.
Mon premier livre relié, imprimé et produit.
Félicitations. Ouais. Et dis-moi, « Les Renauderies », qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, ça part d'une idée qu'un ami m'avait lancée une fois, en 2008, d'envoyer un texte au journal Droit de parole qui était distribué dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, Saint-Sauveur, Saint-Roch. Puis j'allais dire, ouais, pourquoi pas, dans le fond, un petit texte. Puis je l'avais écrit un sur le dépanneur. Puis j'avais dit, ah, moi, ça pourrait peut-être faire une colonne au sein du journal pour que les gens seraient libres de lire ou non en recevant le journal. Puis j'ai envoyé ça au journal, donc. Puis tout de suite, ils m'ont passé, puis... On dirait que le mois d'après, ils m'ont dit « T'en as-tu un autre? » J'avais fait « Ah ouais, j'avais aussi le club vidéo, je pense. »
OK.
Puis j'avais envoyé ça. Puis là, ça m'avait motivé à écrire un texte par mois pour le journal Droit de parole.
Okay.
Donc, dans le fond, ce recueil-là, c'est des années 2008 à 2011, voire 2012.
OK.
Donc, depuis 2008, c'est tous les textes qui ont paru dans le journal Droit de parole.
Donc, ça fait 3 ans que tu écris un texte à chaque mois qui porte sur...
Sur un aspect banal de la ville.
OK.
Un lieu, souvent, mais ça peut être aussi un objet comme le lampadaire, le banc de parc.
OK.
En fait, ce qui m'attire, c'est vraiment l'extrême banalité d'une chose. Là, à partir de là, je dis, ah, il y a peut-être un texte à faire avec ça.
Toi, tu t'es né dans le quartier ici, le quartier Saint-Jean-Baptiste.
Oui.
Donc, tu as passé toute ta vie dans le centre-ville, ce qu'on appelle le centre-ville pour Québec. Et c'est inspiré, tes chroniques sont inspirées de l'urbanité, de la vie urbaine?
Oui, c'est ça. Je me voyais pas... c'est ce que j'ai eu devant les yeux toute ma vie. Donc, je me voyais comme pas écrire sur d'autres choses que tous ces objets qui m'entouraient depuis le début.
Puis, je pense que tu as fait aussi des études avec les textes.
Ouais,
c'est ça.
C'est
partie de mémoire de maîtrise.
J'avais commencé une maîtrise sur l'essai québécois, l'humour dans l'essai québécois.
Okay.
Une maîtrise en création littéraire.
OK.
Puis là, quand j'ai eu le temps de faire un partie création, j'avais comme déjà commencé à collaborer au journal. Puis j'avais fait, ah, ben tiens, je pourrais peut-être voir l'humour dans la chronique au Québec. Puis ça m'a amené à trouver un certain type de chronique au début des journaux au Québec de Mars, okay. Donc largement diffusé. Puis j'ai trouvé ce qui pouvait être humoristique, de façon un côté aussi plus intime dans le cadre d'un journal d'information.
Okay.
Donc un jeu qui s'affirme puis qui est un peu naïf et rêveur. Donc ces renauderies-là ont été le corps de la partie création réunie. Okay. Puis, je me lis à cette étude-là sur ces chroniqueurs-là du début du siècle. Donc, le livre que je tiens entre les mains en ce moment, c'est vraiment la version, si on veut, amusante et le fun à lire.
Je vois qu'il y a des dessins aussi.
Oui, c'est un autre collaborateur du journal, un fondateur même du journal Droit de parole, qui date de 1974, Marc Boutin.
OK.
Qui, l'année passée, a commencé à faire des dessins. Puis j'en ai demandé quelques-uns de plus pour le livre, pour en avoir peut-être une dizaine dans ce livre-là, qui a plus qu'une centaine de pages.
Donc. Quand même. Tu fais du slam aussi?
Oui, j'en ai fait, je dirais, de 2008 à 2010, 2007 à 2010.
OK.
Puis j'ai fait à la JT, j'étais à Montréal aussi, à Sherbrooke, faire des c'est ça, c'est des 3 minutes, donc faut que tu captives.
Oui, c'est une formule artistique qui est vraiment très, puis, très résumée, qui est très...
Peut-être que la longueur des renauderies aussi ont été inspirées de ce passage-là au slam.
Okay.
Je me rends compte en les lisant qu'ils font tout à peu près ça, 3 minutes. Donc, peut-être une longueur qui me plaît.
Oui. Puis, tu continues ta collaboration avec Droit de parole?
Oui, encore ce mois-ci, cet hiver. Je ne sais pas, cet automne encore, je n'ai pas décidé.
OK.
Mais jusqu'en juin, c'est sûr, ouais.
Donc, on pourra un jour voir un numéro 2?
Un tome 2. Espérons-le, si tout va bien.
Il est disponible où, ton livre?
C'est drôle, j'ai publié à compte d'auteur, donc okay. C'est moi qui fais la distribution. Puis j'ai décidé de me concentrer au centre-ville.
OK.
Bien sûr, ici même, à la librairie Saint-Jean-Baptiste. Puis aujourd'hui, j'ai été, je sais pas, en toute, Hauteville, Basseville, ils l'ont maintenant.
OK.
Puis librairie de l'Amérique française. Librairie générale française.
Ah, c'est bien.
Ils l'ont aussi, là.
Bon, bien, pour les gens qui sont intéressés, il y a quand même quelques endroits où on peut se le procurer. Est-ce que tu as envie de nous faire une deuxième lecture?
Oui, OK. Je vais faire le texte initial du recueil. Hein.
La cabine
téléphonique, oui.
Alors, on t'écoute.
Parallèlement au fait que de plus en plus de gens parlent à leur cellulaire, je me plais de plus en plus souvent à me réfugier dans une cabine téléphonique pour m'y taire et, vraiment, décrocher. Simulant l'utilisation, je prends le combiné, mets mon coude sur la clenche pour entraver la tonalité et y reste pendant des heures. Me croirez-vous, le silence qui y règne est d'une surprenante qualité. Je m'amène une tisane, des mots fléchés, des pantoufles en fantex. Si le cœur m'en dit, je chante, je gueule, je me lamente, j'extériorise. D'autres fois, j'écoute mon corps, me palpe, m'ausculte, me dorlote. Bref, tel que lu dans une revue de cabinet, je prends du temps pour moi. Je ne suis toutefois pas malautru et cède volontiers ma place lorsque quelqu'un en a, entre guillemets, réellement besoin. Je réintègre ensuite lorsqu'il a terminé, mais depuis que les appels coûtent 2 fois 30 sous, de tels dérangements arrivent rarement. Certaines cabines téléphoniques sont en fait si peu fréquentées que j'en viens à me permettre de changer la déco. Photos de Superman, de Benoît Brière, d'Amélie Poulain et autres célèbres cabiniers. Signets de luxe pour potins, tapis sauf pantalon l'hiver, housse à combiner, etc. Et tout est presque toujours en place lorsque j'y retourne, n'est-ce pas formidable? Je peux parfois faire de très longues distances pour en rejoindre une. Et franchement, ce n'est pas pour me vanter, mais les cabines, je crois les avoir toutes essayées. Une fois, on a sonné. Ce n'était jamais arrivé, et dans mon étonnement, j'espérais un faux numéro. C'était la compagnie locale qui m'avait repéré et se demandait si tout allait bien pour moi, si je ne désirais pas avoir le téléphone à la maison, si j'avais été informé de leurs offres exceptionnelles. Ils m'ont même parlé de télé. L'échange s'est fait dans la bonne humeur et avec respect, mais au bout d'un moment, ma réflexion à l'endroit des différentes catégories de forfaits était si intense que, machinalement, j'ai remis mon coude sur la clenche. Tout n'est pas perdu. L'appel aurait été enregistré. Alors, quand l'ennui se fait sentir, je suis homo stimulus, moi aussi, que voulez-vous? Je soulève mon coude, écoute la tonalité, puis cette voix que vous connaissez autant que moi. Survient alors ce choix. Enfoncer ma carte ou faire le numéro que je désire obtenir. Je me rends alors compte que je ne désire rien. Je suis bien. Je raccroche et compose avec mon ennui de nouveau. C'est un bel ennui, un ennui bel, un ennui illimité, passé 5 heures. C'est si plate que l'idée me vient d'en faire même une renauderie. J'ai trouvé mon sujet, je suis content. Je suis content, mais j'aurais pu l'être depuis longtemps, parce qu'en réalité, j'écris toujours les renauderies dans les cabines téléphoniques.
Alors, c'était la cabine téléphonique de Renaud Pilote. Merci Renaud. Bonne chance avec les Renauderies.
Merci Catherine.
On va faire une pause musicale. On va écouter La Chaconne de Bach, interprétée par Gustave Léonard.
Merci. Thank you.
Alors, vous venez d'entendre La Chaconne de Bach, interprétée par Gustave Léonard. Et c'est une pièce qui a été choisie par Jean-Philippe, qui est notre prochain invité. Et Jean-Philippe a eu envie de nous parler aujourd'hui d'un écrivain qui s'appelle Jonathan Swift. Monsieur Swift, c'est un monsieur fort intéressant, qui a vécu il y a très longtemps. Il est né donc en 1667 et il est mort en 1745 à l'âge de 78 ans. Et il fut un écrivain, bien sûr, mais aussi et surtout un satiriste, un essayiste, un pamphlétaire politique. Il est d'ailleurs considéré aujourd'hui comme le plus grand satiriste de la littérature anglaise. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir Catherine.
Tu as donc choisi de venir nous parler aujourd'hui d'un pamphlet intitulé « La modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public ».
Eh oui, j'ai décidé de choisir ce texte parce que, en fait, quand Swift, c'est un de mes auteurs fétiches que je relis le plus souvent possible. Et La modeste proposition, c'est une de ses œuvres qui, pour moi, est, en fait, qui est intemporelle, qui peut être mise en situation dans n'importe quelle époque. Et, en fait, quand Swift propose tout simplement de manger les bébés irlandais.
C'est fort original.
Et oui, mais c'est une satire, c'est de l'humour noir. Et sa grande force, c'est de présenter, premièrement, sa réflexion comme étant valide, comme étant véritablement... Ben, on dirait, je vais dire... qui est pour aider le peuple irlandais.
Oui, c'est
et
ça.
Aider les familles pauvres à se sortir de leur misère.
D'où l'humour.
C'est d'où ça, l'humour.
C'est ça qui devient drôle, en fait. C'est qu'il présente une proposition absolument scandalisante.
Scandalisante pour n'importe quelle
pour
époque.
Pour une bonne cause.
Oui, pour une bonne cause. Et, en fin de compte, il propose tout simplement d'introduire dans l'économie la chair de bébé. Et où trouver cette chair de bébé? Dans les familles pauvres, des familles irlandaises. Et c'est une critique de plusieurs points de l'époque. C'est une critique de la société mercantile de l'époque. C'est une critique de la dichotomie entre la bourgeoisie, pauvreté qui avait de l'époque, mais qui est encore aujourd'hui la même chose.
Ouais.
Et une critique aussi de la religion. Du conflit catholique-protestant.
Est-ce que tu sais comment ça a été reçu, cette proposition-là? Quand ils ont reçu... Parce qu'il a déposé ça, c'est comme une nouvelle, mais en fait, c'est une proposition qu'il a déposée officiellement au Parlement.
Oui, ça, j'ai essayé de trouver... j'ai essayé de trouver ce qui a été dit à l'époque à propos de ça. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est qu'elle est un peu passée dans le bar.
Okay.
Et que c'est au début du 20e siècle que c'est revenu au sujet, que les gens ont commencé à lire ça et ont commencé à critiquer, à interpréter ce que Swift voulait dire par rapport à ce texte-là.
Puis c'est peut-être en redécouvrant aussi l'esprit de l'humour, parce que, évidemment, lui, quand il l'a déposé comme une proposition au Parlement. En fait, on ne sait pas s'ils ont trouvé ça drôle ou pas. Mais aujourd'hui, nous, quand on lit ça, évidemment, on lit ça avec beaucoup, avec un regard très humoristique. Et toi, tu me disais que pour toi, c'était de l'humour absurde. Tu considérais qu'il était comme un précurseur de l'humour absurde?
C'est André Breton qui dit que c'est le précurseur de l'humour noir, qui est basé sur la satire, mais... En fait, Monsieur Breton.
Oups, excusez-moi, j'ai pris mon papier.
Monsieur Breton, il dit que l'humour noir, c'est un sous-genre de la satire qui est relié au cynisme et au scepticisme, mais que le sujet va être différent, que ça va être des sujets plus morbides, comme manger des bébés.
OK.
Et que, ce que je voulais parler aussi, c'est que ce qui est très fort dans le pamphlet Swift, c'est que Swift va utiliser des prétextes autant sociaux qu'économiques. Il va définir le nombre de têtes de bébés qui va naître dans les familles pauvres en Irlande, qui est de 120 000. Donc 100 000 va être pour la consommation courante et 20 000 pour la reproduction. Et ces 20 000 là, on va garder un corps de mâle et trois corps de femelle pour pouvoir reproduire la pauvreté de l'espèce, pour pouvoir faire rouler cette économie là qui va être basée sur le bébé. Et en même temps, il propose, il dit, ça va améliorer plusieurs points, et ça va apporter beaucoup de choses à la société. Enfin, ça va enrayer une partie de la pauvreté, parce que avec un bébé d'un an qui nous coûte 2 shillings la première année, on le revend 10 shillings, donc un profit net de 8 shillings dans les poches des pauvres. Et ça va faire rouler l'économie autant des tavernes, des abattoirs, des bouchers. Et en plus, ça va apporter un autre main culturel sur les riches tables d'Angleterre, le bébé rôti et en sauté, en n'importe quoi.
C'est d'une logique inattaquable. Je veux dire, d'un point de vue, si on enlève toute émotion à ça, c'est d'une logique inattaquable, en fait.
Oui,
ça fonctionne.
C'est un très bon calcul scientifique, économico-scientifique.
Puis c'est un petit peu le début de la pensée scientifique aussi, quand on parle du début du 18e, là.
Oui, le début de la pensée scientifique, mais mettre l'économie comme
au
étant quelque chose de calculable, ouais. Il démontre très bien dans cette chose que, en fait, quand c'est calculable, on peut avoir tant de bébés et en manger tant, garder l'autre. Puis aussi, ce qui est aussi fort dans son texte, c'est qu'il apporte le concept de bétail tranquillement. Il va commencer par parler d'enfants pauvres, de mendicité, de plaies pour la société, autant pour la société que les familles. Ensuite, il introduit le concept de on peut le mettre sur la table, on peut manger un bébé, on peut donner des recettes de bébé, concevoir une culture culinaire à partir du bébé. Et ensuite, il propose l'idée du bétail, de concevoir toute une économie basée sur la vente de bébés de provenant de familles pauvres.
Et Jonathan Swift, il est connu surtout pour les voyages de Gulliver.
Oui.
Alors, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de métaphores avec les animaux.
Avec les animaux, pas nécessairement seulement avec les animaux.
Pas seulement, là, mais entre autres.
Oui, il y avait les chevaux dans...
Les chevaux, c'est ça?
Les chevaux. Erreur commune. Mais les chevaux dans l'île de Gulliver, il fait beaucoup de métaphores par rapport à sa société de l'époque. Il fait beaucoup référence dans les voyages de Gulliver à la société anglaise de l'époque et, en fait, à l'homme en tant que soi aussi. C'est quelqu'un qui a un humour très, très noir, qui... on pourrait dire qu'il est misanthrope d'une certaine manière, qui n'aime pas ses semblables. Et cette semaine, j'ai entendu un très bel extrait de M. Carl Monnet, animateur de radio à choix au Saguenay.
Oui.
Et ça m'a rappelé ce texte-là, en fin de compte, que l'ostracisation de la pauvreté les mette à l'écart.
Tu peux nous rappeler les propos de M. Carl Monnet, précisément?
Ses propos, c'est simplement d'envoyer les BS aptes au travail qui sont par-dessus 5 ans de BS, qui sont sur l'aide sociale depuis plus de 5 ans dans le Nord. En fin de compte, construire un mur et les envoyer au plein Nord. Et en fait, on de laisser l'eau, de laisser travailler pour le temps, puis on verra bien qu'est-ce qu'ils vont faire là.
Mais les stériliser aussi.
Stériliser, puis juste les mettre dans un coin. Et en fait, pour moi, c'était ça, c'est l'utilisation de la classe possédante, des riches, envers les pauvres. C'est exactement la même chose. C'est on va prendre ce que les pauvres peuvent nous donner, en fin de compte, des bébés, de la nourriture comme nourriture. Et bon, ben, on n'aura plus besoin de s'en occuper parce qu'ils vont faire 8 shillings de plus par année. Donc, ça va enrayer le problème de la mendicité.
Mais si au moins M. Monnet était drôle, ce qui n'est pas tellement le cas.
Ce qui n'est pas le cas aussi.
Alors que M. Swift, lui, il l'était. D'ailleurs, oui. Il avait 62 ans quand tu as écrit La Modeste Proposition. Hein?
Oui, il était quand même assez vieux. Ouais.
Tu ne voulais pas nous lire un extrait de...
Oui, mais j'avais trouvé un extrait exactement de Swift. C'est un truc qu'il avait écrit avec Pope, Alexander Pope. Ça s'appelle « Penser sur divers sujets moraux et divertissants ». Ça, c'est la partie de Swift que j'ai présentement. Et il y en a une qui m'a fait penser à M. Monnet. C'est « Hippocrate, remarque que les gens qui béguent sont toujours enclins à la diarrhée. Je voudrais bien que les médecins eussent le pouvoir de dériver sur les parties inférieures le flux de paroles dont beaucoup de gens sont atteints. »
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Bonne soirée.
Alors, on va faire une pause, petite pause musicale. On va écouter Wooden Arms de Patrick Watson et nous revenons avec la chronique de Mylène.
I wish I'd be in your wooden arms. swallowed me into a thousand dreams and held me close, my woven eyes that weep just like a willow tree.
Alors, c'était Wooden Arms de Patrick Watson. Et nous sommes de retour donc avec Mylène, notre chroniqueuse habituelle. Bonsoir Mylène.
Bonsoir Catherine.
Alors, ce soir, Mylène, tu as décidé de nous parler d'un concept qui a été créé par Ernst Jünger. Et il s'agit de la figure du Waldgänger.
En fait, c'est ça. Ernst Jünger a pris quelque chose qui existait déjà historiquement et a créé une espèce de figure intemporelle avec ça. Donc, le terme « Waldgänger », ça peut aussi se traduire par le recours aux forêts. Donc, historiquement, les Waldgänger étaient des proscrits, c'est-à-dire des criminels qui étaient exclus de la société et qui devaient avoir recours aux forêts, dans le fond.
Oh, c'est un mot qui existait déjà, oui, c'est pas un mot qu'il a créé. Là.
Non, ben, c'est un mot qui existait déjà, mais il y a donné une autre signification.
Okay.
C'est-à-dire que, auparavant, on définissait par Waldgänger un proscrit. Qui était souvent un criminel qui avait tué, dans le fond, quelqu'un.
Okay.
Là, ça n'a plus du tout la même signification, dans le sens que le Waldgänger est celui qui choisit volontairement de vivre en dehors de la société, qui décide de vivre en rebelle.
Il a créé ce concept-là dans un essai, hein?
Ouais,
c'est un essai
ça.
Qui s'appelait...
Le traité du rebelle ou voilà. Le recours aux forêts.
1951.
Oui, 1951. C'est sûr qu'il faut replacer l'essai dans le contexte. Ça arrive... Ernst Jünger est un Allemand. Donc, ça arrive après la Seconde Guerre mondiale et suite, en tout cas, à un paquet de régimes totalitaires qui ont eu cours dans les années précédentes. Donc, il développe un peu son idée du Waldgänger qui est du rebelle par rapport à ça, là, dans ce contexte-là. Il débute un petit peu son essai en parlant du vote des sociétés qui se disent démocratiques,
oui.
Mais où le vote a comme lieu, mais qu'en fait, ça cache souvent pas des systèmes totalitaires, mais presque. Donc, il dit que face à, comment je pourrais dire, à quand tu es dans un système totalitaire, tu as plusieurs choix, soit de le fuir, soit d'être indifférent puis de le subir, ou encore de te rebeller contre. Mais il dit que d'exprimer son refus ou son résister à travers les modes de résistance, si on veut, qui sont permis par la société, c'est un peu contradictoire, c'est-à-dire qu'on fait que rester dans le régime totalitaire. Puis pour ça, il va montrer l'exemple du droit de vote. Si on vous pose la question, êtes-vous pour ou contre le régime qui est en place, si tu choisis de cocher la case du non, puis qu'il y a juste 2% de la population qui vont dire non, c'est que ce 2%-là fait juste affirmer l'écrasante majorité du 98%. C'est-à-dire que le jour où tout le monde admettait il y aurait 100% des suffrages, ça montrerait qu'on n'est pas vraiment dans une démocratie.
Ouais.
Donc, il faudrait eux-mêmes qui créent le 2% pour conserver l'illusion, justement, de cette démocratie-là.
Oui, c'est ça. C'est une notion qui n'est pas nécessairement facile à expliquer, mais j'ai trouvé des petits exemples sur Internet, évidemment, où c'est un monsieur qui s'appelle Jean Pascal qui a écrit un texte sur le Wildganger, et il donne comme exemple une personne qui, dans la société d'aujourd'hui, n'a pas de télévision, est un Wildganger dans le sens où sa propre forêt, c'est probablement sa bibliothèque, et où des conversations avec des amis. Il est autonome parce qu'il consulte ce qu'il veut quand il veut. Et il se protège de l'agitation télévisuelle. Il ne joue pas le jeu social du lendemain. Donc, c'est une manière... Le Wildganger, dans le fond, c'est un petit peu de la résistance à l'environnement, à la mode, une manière de se créer un environnement qui est à soi, qui est à l'extérieur du mouvement.
Oui. C'est sûr que le texte de Jean Pascal, que j'ai lu moi aussi sur Internet, il prend pas encore en compte l'espèce de responsabilité qu'on a aussi envers les autres. T'sais, ça parle de se créer un monde à soi et pas de changer son propre monde, t'sais, de s'impliquer ou de... Fait que c'est un peu ça le bémol que je mettrais sur je dirais ce que Jean Pascal en a compris, parce que pour Ernst Jünger, c'est d'inscrire sa résistance. Admettons, si tu veux dire non, écris-le partout sauf sur le bulletin de vote.
Okay.
Il faut que ça soit dans des endroits où on s'en attende pas.
Okay.
Ou vraiment. Oui, tu sais, le admettons de faire le choix de ne pas avoir de cellulaire, c'est une chose. Mais dire aux autres pourquoi tu n'as pas de cellulaire, puis diffuser de l'information, admettons, sur les lobbies que vont avoir les compagnies de téléphone ou ta-ta-ta, c'est là, à ce moment-là, tu t'impliques. C'est pas un nihilisme, c'est pas non plus... il prône pas l'action solitaire. Il va parler que, oui, souvent, le Wildganger, de par sa résistance, va souvent se trouver en minorité, puis... mais en même temps, c'est pas...
Est-ce que ça serait plus proche de l'art de rue à ce moment-là, les gens qui, dans la rue...
Ben, ça pourrait, exactement ça, ça pourrait être des milieux où il y a une espèce de pratique rebelle qui s'inscrit. Mais tu sais, si c'est, admettons, la ville qui permet qu'il y ait des graffitis sur tel mur, ben là, à ce moment-là, c'est comme la municipalité qui va... permettre une certaine forme de contre-culture, mais en même temps, bon, à partir du moment où c'est accepté par la municipalité, t'es plus vraiment dans une contre-culture, là. Donc, c'est un peu ça l'idée, là. C'est d'aller, d'être en dehors du réseau. C'est pas d'être indifférent, mais c'est de mener des actions en dehors du réseau institué, dans le fond.
Pour toi, le Wildganger, aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
Ben moi, je trouvais ça quand même inspirant, parce que, bon, il y a le Times qui, cette année, fait du protestataire, la personnalité de l'année. Ernst Jünger va vraiment préciser par contre que c'est pas seulement, ça suffit pas de protester ou de fuir. C'est l'implication est quand même au cœur de l'action rebelle, si on veut. Mais c'est ça, moi je trouvais ça quand même inspirant qu'en 1951, face à des régimes totalitaires, il y ait. Puis Ernst Jünger le précise aussi, le Wahlgänger, c'est une figure qui est à actualiser dans n'importe quelle époque. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui est. C'est pour ça aussi que dans le texte, ils l'ont traduit par rebelle et non par proscrit, parce que c'est pas seulement la notion historiquement admise comme le terme qui existait avant, mais vraiment une figure qui transcende le temps, les époques, et qui est là pour protéger une certaine liberté.
Et dans son essai, est-ce qu'il fait l'apologie de la rébellion?
Ben c'est pas comme ça vraiment que ça se présente. C'est vraiment une réflexion. Il va parler un petit peu du contexte allemand parce que, bon, c'est là où il se situe.
Oui.
Mais c'est pas une apologie de la violence du tout.
Non, c'est ça. Non, ça, c'était un pacifiste.
Non,
un homme
vraiment,
pacifique.
Là, tu sais, puis il y a un petit chapitre qui parle du danger de tomber dans la criminalité
ou de
s'associer aux gangsters. Tu sais.
Oui.
C'est en dehors du politique, mais c'est en dehors aussi des milieux. Donc,
criminalisés. C'est une manière d'être résistant à la société.
Oui, c'est ça. Donc, résistant à la société, mais tu sais, aussi. Bon, c'est un terme bien à la mode, là, mais proactif, j'oserais dire. Là.
Oui.
C'est-à-dire que de mettre en place d'autres réseaux que ceux qui sont normalement mis de l'avant, utilisés.
En fait, c'est très intéressant parce qu'effectivement, avec tous les mouvements des indignés, c'est quelque chose qui peut faire écho à beaucoup de gens.
Oui, puis moi, ça me rappelait aussi, bon, au-delà des gouvernements, il y a quelque chose qui mène le monde en ce moment, quasiment globalement,
oui.
Puis c'est le capitalisme, le néolibéralisme, j'oserais dire exacerbé, là, qui met des contraintes économiques puis sur tous les États des pays aussi. Donc, c'est comme si c'était une suprastructure qui contrôlait toutes les autres. Là. Donc, c'est un peu... ça l'aide aussi à essayer de penser par soi-même, puis à... Donc, je trouvais ça inspirant.
Puis, le nom de l'essai, rappelle-moi,
c'est... Le Traité du Rebelle.
Ouais,
le Traité du Rebelle ou Le Recours aux forêts, qui est comme le sous-titre, hein, mais le titre, vraiment, c'est Le Traité du Rebelle.
De Ernst Jünger, c'est un monsieur auquel il faudrait qu'on revienne, ce monsieur que j'ai découvert grâce à cette suggestion-là. C'est un monsieur fort intéressant. Il faudrait qu'on en reparle dans une autre chronique.
Parfait. Bien, ça m'a fait plaisir, Catherine.
Merci, Mylène. Alors maintenant, c'est le moment tant attendu, c'est le moment de notre prestation live avec notre artiste préféré de la librairie. Vous pouvez applaudir, nous allons entendre la toune inappropriée de M. Gab Paquette.
Merci tout le monde. C'est une chanson d'amour que je me suis réservée aujourd'hui pour vous, dans le but de justement vous inviter à ma soirée Saint-Valentin. Voici inapproprié. J'ai une déclaration à te faire. La robe que tu portais hier soir n'était pas assez courte, pas assez décolletée. Donc inapproprié. Mes amis et moi en avons discuté. Ne me fais jamais plus une chose semblable. Si tu veux m'être agréable, mon amour, parfois tu es absolument insupportable. Si tu viens me rejoindre à la chambre à coucher, nous allons devoir discuter de la façon de te mettre ton maquillage, ton âge. Tu sais, c'est très inapproprié. Il faut en faire un usage plus sage, t'offrir un bronzage, faire preuve de générosité, en appliquer davantage et appuyer très fort sur le crayon. Question que ça te dévisage, comme toutes les filles que j'ai invitées. Regarde ce soir dans notre intimité, mon amour, ne me fais pas pour une fois le coup de la mésadaptée sociale. Mon amour. Et ce regard intolérable que tu m'as adressé hier à cette table était inacceptable. Pendant le repas, à 350 balles, 5 étoiles, tu sais, très approprié. Avais-tu bien pris tous tes médicaments? Avais-tu bien pris ces 3 calmants que je t'ai prescrits et qui t'empêche habituellement de me raconter toutes tes âneries? C'est simplement pour te faire taire quand moi je m'efforce de bien paraître, de garder un minimum l'esprit de bienséance en écoutant la musique en silence dans ma tête. Mon amour, je t'aime. Chérie, allez, allez, viens m'embrasser. Allez, viens m'embrasser, oui. Je te pardonne tout. Désormais, tout, c'est fini, mais ne leur fais plus jamais.
Merci. Merci, merci, Gab. On va t'inviter à venir nous rejoindre ici. Je me rends compte que définitivement, ce soir, on a un thème d'humour noir ou absurde.
Non, moi, mon humour est rose.
Rose foncé, pâle, je pense qu'on... On va essayer de pas
qualifier ça. Tu peux imaginer la couleur que tu veux, Catherine.
Je trouve que c'est une chanson extrêmement appropriée pour la Saint-Valentin.
Ben
en
oui,
fait.
Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans, malheureusement.
Ben, j'espère que non.
Ben, moi, je pense que oui, c'est ça qui est drôle. J'ai joué ça à des filles, puis ils voulaient m'arracher à la face. Ils reconnaissaient un gars qui, ou une fille, en tout cas.
C'est sérieux?
Un couple. Oh, oui, oh, oui, vraiment, là, c'est trash, là, ces sujets-là. Là.
C'est vrai, mais c'est vraiment le propre de l'humour absurde, en fait, parce que c'est toujours quelque chose qui peut être pris premier niveau. Mm-hmm. On mm-hmm. peut le prendre tel quel, dire, ben voici, il dit vraiment ça. Sans...
Ben, en riant nécessairement d'une situation ou de quelque chose, il y en a qui peuvent se reconnaître là-dedans, oui, puis ça peut être... Ça peut être blessant.
Oui, ça peut être dérangeant. Mm-hmm. Puis tes chansons sont souvent un petit peu limites comme ça sur...
Oui, oui, entre deux eaux, là, on ne sait pas trop.
Oui, ouais, mais moi, je trouve que c'est la force de tes textes. Là. Moi, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis donc, tu viens nous faire un spectacle de la Saint-Valentin, c'est le 14...
Le 14 février, si vous n'avez pas de... Ben, en fait, on invite les couples, les femmes célibataires, les trios... les hommes sont tolérés.
C'est bien.
Et c'est ça, fait qu'on est trois chanteurs romantiques.
OK, tu seras pas seul.
Ah non, c'est le boys band qui va être là.
Oh, d'accord.
Au complet. Ben, au complet, en fait, le boys band un peu modifié, là, c'est-à-dire que c'est Stéphane Robitaille qui, pas qui remplace Steve de Saint-Bruno, il faudrait pas dire ça comme ça, mais Stéphane Robitaille vient nous partager ses chansons d'amour au sein du boys band ce soir-là, oui.
Okay.
Avec Pico, Pascal Pico Larouche et moi-même.
Mon Dieu, ça va être extraordinaire. Et tout le monde fait des chansons d'amour?
Tout le monde fait des chansons d'amour.
OK.
Des belles chansons d'amour, là. C'est vraiment représentatif de notre univers qui est particulier. Puis on, c'est ça, on...
on fait ça ensemble. Là. On a décidé de partager ça. Il va y avoir quelques collaborations à trois même. Des surprises.
Est-ce que tu vas avoir des nouvelles chansons?
Oui, je vais avoir une nouvelle chanson.
Ah oui?
Oui, ça va être un dance.
Un dance?
Qui va évoquer...
On a un scoop ici ce soir-là.
Oui, bien même, je peux t'en donner un autre. On va tourner un vidéoclip bientôt sur cette chanson-là.
Pour vrai?
À la librairie Saint-Jean-Baptiste, Catherine.
Ben là, ouais, je me peux plus.
Ça va être fou.
Ça va être extraordinaire.
C'est une grande primeur.
Puis est-ce qu'il y a d'autres spectacles qui s'en viennent aussi?
J'en fais un le 14. J'ai-tu un autre spectacle? Ça va en mars. Je pense le 21 mars, je joue au Tam Tam Café.
Super.
Puis sinon, j'ai rien de prévu à date. Là.
Bon, ben écoute, nous, on va être ici le 14 février. En tout cas, on a très hâte d'entendre ça. Te remercie beaucoup.
N'allez pas au restaurant pour la Saint-Valentin.
Non. Venez à la librairie Saint-Jean-Baptiste parce que vous allez vraiment manquer quelque chose si vous venez pas.
Bon, ben merci Catherine.
Merci Gab. On fait une petite pause musicale. On va écouter une toune. Attendez un petit peu, je vais essayer de retrouver ça. Oui, je l'ai ici. C'est une pièce musicale de Saad Mahmoud Jawad et on vous revient ensuite avec Roxane. Nous sommes donc de retour pour un second volet de la série « La littérature pour comprendre le monde » et ça nous amène au Moyen-Orient, au début du 20e siècle. Bonsoir Roxane.
Bonsoir Catherine.
Alors tu viens nous parler d'un livre que tu connaissais depuis longtemps en fait, mais que tu as décidé de lire récemment, peut-être parce qu'il te faisait de l'œil sur les rayons de la librairie depuis quelque temps.
Je l'ai découvert récemment sur le rayon de la librairie, mais je l'avais déjà vu auparavant ailleurs sans l'avoir jamais acheté, mais là je... J'ai tenté le coup et puis je l'ai dévoré.
Il s'agit de Les Sept Piliers de la Sagesse de Thomas Edward Lawrence.
Effectivement.
Et c'est quoi Les Sept Piliers de la Sagesse?
D'abord, c'est un titre énigmatique, hein, oui. Puis pas très vendeur, il faut le dire.
Non.
C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'avait fait reculer à plusieurs reprises là, pour l'avoir souvent croisé sur les rayons de librairies usagées. Donc, un titre un peu énigmatique qui recouvre en fait une œuvre essentiellement historique. C'est un ouvrage qui a été écrit donc par Sir Lawrence que la plupart connaissent au moins de nom, sous le nom de Lawrence d'Arabie, pour avoir vu peut-être le fameux film là, que personnellement j'ai pas vu, mais que souvent en fait, c'est le souvenir qu'on en garde. Et donc, Sir Lawrence qui est un Britannique. Né en 1888, mort en 1935, donc il a eu une vie assez courte.
Courte, oui, ben oui, il avait quoi, 45 ans?
À peine, à oui, peine. À peu près. Ouais. Et puis qui a été impliqué de très près dans la révolte des pays arabes qui a eu lieu à partir de la moitié de la Première Guerre mondiale, donc en 1916 à peu près.
Mm-hmm.
Donc, révolte qui a fait en sorte que les principaux pays arabes qui étaient à cette époque-là sous domination d'Empire ottoman, donc domination turque, se sont révoltés contre l'envahisseur ottoman.
Pour replacer un petit peu les auditeurs, là, l'Empire ottoman, donc, on est à peu près à la fin du 19e siècle, début du 20e.
Oui.
Et il y a les Européens qui essayent de s'installer en Orient.
Oui, ben en fait, sont déjà présents dans certains pays, l'Angleterre qui est déjà présent en Égypte, entre autres, la France qui en est sur la Syrie,
mm-hmm.
La Turquie demeure la force dominante au Moyen-Orient, entre autres à cause d'une parenté de langue, de religion, ce sont des pays musulmans, de langue arabe, etc. Mais il y a des tensions depuis assez longtemps quand même, parce que bon, l'Empire ottoman est constitué de différentes peuplades, entre autres, bon, les pays de l'Est, la Macédoine, la Grèce, le nord de l'Afrique, etc. Donc, c'est très, très mélangé. Un peu comme l'Empire austro-hongrois, bon, qui s'est défait à la même époque d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, ce qui fait en sorte qu'au final, les Turcs se retrouvent minoritaires dans leur propre empire si on compte la quantité d'autres populations qui sont incluses dans ce rassemblement de pays. Puis, ça crée beaucoup de tensions parce que, bon, la gestion turque n'est pas toujours aimée. Bon, mm-hmm. c'est souvent le cas hein, dans des cas comme ça.
Mm-hmm.
Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, les Turcs sont alliés des Allemands. Et pour ce qui est des Français et des Anglais, donc les Alliés, pour eux, ils voient ça de bon œil que les Arabes se révoltent contre les Turcs, ce qui finalement met des bâtons dans les roues des Allemands qui auront en plus à envoyer des troupes pour aider leurs alliés turcs. Donc les Français et les Anglais, à partir de 1916, vont soutenir la révolte des Arabes, oui. D'abord d'un peu loin, puis ensuite, entre autres, quand Lawrence lui-même va y aller, de beaucoup plus proche, en envoyant des troupes directement, c'est beaucoup ça. D'argent, etc.
C'est que lui va jouer un rôle vraiment de premier plan là, dans la révolte des Arabes face à l'Empire turc.
Oui, oui, de très premier plan. En fait, il va avoir le rôle d'un agent de renseignement, en quelque sorte, là, auprès des Arabes, pour les conseillers, donc conseiller politique, et également agent d'information pour les Anglais, pour leur expliquer
couronne,
un peu ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit attaquer, ne pas attaquer, comment on doit s'y prendre, parce que lui-même connaissait très bien la culture arabe, il avait déjà habité, il connaissait la langue, les pays, la géographie, le désert. Là, il faut quand même se mettre un peu dans le contexte. Il s'agit en gros là, de la Mésopotamie, donc de l'Irak actuel, tout ce qui était à l'est de l'Égypte, jusqu'au sud de la Turquie, la Syrie, le Liban,
énorme.
Tout ça. La Palestine également. C'est relativement grand comme territoire, mais surtout, c'est des territoires très largement désertiques. Puis, vous imaginez les troupes anglaises au plein milieu du désert. Disons qu'il faut quand même... il faut connaître. Hein?
Oui.
On se bat pas de la même manière au plein milieu du désert. Il faut avoir de l'eau. Il faut savoir où sont les points d'eau si on veut avancer. Il faut pouvoir savoir comment on s'y prend avec un chameau.
Et donc, les sept pieds de la sagesse, c'est ce que ça raconte.
Oui. Donc, l'œuvre en tant que telle a vraiment comme objectif, et Lawrence lui-même le dit, entre autres dans sa correspondance... après coup, donc après la guerre, l'œuvre a vraiment comme objectif de témoigner de ce qui s'est passé pendant ces années-là. je vais vous lire un extrait, d'ailleurs, qui l'explique très bien. C'est un extrait, de correspondance. Attendez un peu que je le retrouve.
Oui, prends ton temps.
Donc, il dit, à mon grand étonnement, la paix survenue, c'est une lettre qu'il écrit, là, attendez, je vais vous donner l'année, en 1922. J'ai découvert que j'étais moi-même le seul à savoir ce qui s'était passé en Arabie pendant la guerre et le seul de l'armée arabe à savoir lire et écrire.
Oui.
Ainsi, rapporter ce qui s'était passé devenait une obligation professionnelle. Et j'ai commencé à faire cela tout bêtement et simplement, à bien des égards comme un bébé qui trouve facile de parler. Mais lui-même étant quelqu'un de très, déjà très cultivé, de très intéressé par la littérature, qui avait un idéal très, très haut, un idéal littéraire très haut, il s'est rapidement fait prendre au jeu, puisqu'il, à la base, était pensé comme une espèce de témoignage tout simple d'événements historiques qu'il considérait comme trop important pour être passé sous silence. Un peu plus loin, c'est bien parce qu'il s'agit d'histoire et me voilà déshonoré à jamais si, étant l'unique chroniqueur d'un événement, je m'abstiens d'en faire la chronique. Donc, il se sentait carrément obligé moralement, en quelque sorte, là, de rendre compte des événements qui s'étaient produits, sachant que il y avait peu d'autres personnes qui pourraient faire de même. Puis il s'est fait prendre au jeu, donc il a passé plusieurs années à réécrire, en jugeant toujours son œuvre insatisfaisante d'un point de vue littéraire, en se jugeant un auteur terriblement mauvais, en voulant brûler tout ce qu'il avait écrit, etc., etc. Mais avec une espèce de, une espèce de dualité qu'on retrouve souvent chez lui, entre l'insatisfaction de soi très profonde, puis à la fois un idéal de performance, puis le désir de témoigner également très profond.
D'ailleurs, c'est intéressant de savoir comment il s'est retrouvé là.
Oui.
Parce que lui, au départ, il était intéressé par les forteresses en Europe.
Oui, en fait...
Et c'est en s'intéressant à ça qu'il a découvert l'Arabie, la culture arabe.
Oui, tout à fait. C'est assez fascinant. D'ailleurs, à chaque fois que j'y repense, je me dis, c'est ce qu'il faudrait dire aux étudiants en sciences humaines pour leur expliquer que ça peut servir à quelque chose. Parce que lui, c'est un historien à la base.
Ouais.
Souvent, on se dit, si on étudie l'histoire, qu'est-ce qu'on va devenir? On peut devenir chef de guerre, entre autres, fomenter des rébellions partout.
Espion,
oui.
Aventurier.
Donc, lui, il a une formation en histoire à la base. Et il a, depuis son plus jeune âge, il était très intéressé par... essentiellement l'architecture médiévale, l'architecture militaire médiévale. Donc, il y avait quand même toute une culture, c'est quelque chose qui transparaît dans son œuvre. Une culture militaire, il avait lu les grands traités militaires de Clausewitz, également des auteurs du 18, 19e, 20e siècle, les manières de faire la guerre. C'est un matériel qu'il maîtrise très, très bien. Et par ailleurs, il y avait cet intérêt là, qui s'est développé très tôt chez lui. Très jeune déjà, il parcourait avec des amis la France et l'Angleterre à vélo, visiter les châteaux. Il essayait de récolter là, des bouts de quoi que ce soit qu'il envoyait ensuite au musée quand il trouvait des fragments dignes d'être conservés.
Ouais. Donc, il a fait ça pendant des années. Là-dessus.
Oui, donc il s'est mis à collaborer de manière proche au musée qui était affilié à son collège là, quand il était à l'université. Et il a inscrit un sujet de thèse sur la thèse, c'est-à-dire pas thèse doctorale, c'est l'équivalent du premier cycle universitaire là-bas, sur l'influence de... Attendez, j'ai le titre ici quelque part. L'influence des croisades sur l'architecture militaire européenne.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est sa thèse précisément. Et pour faire ce fameux travail, il est allé pour la première fois donc en Syrie. Il a visité le monde arabe. Son but étant de juger de l'influence sur l'architecture elle-même. Donc, il a visité finalement une cinquantaine de forteresses disséminées un peu partout en Palestine, en Syrie.
C'est ça. Il est allé visiter, après avoir fait le tour des forteresses européennes, il est allé visiter les forteresses au Moyen-Orient.
Exactement, parce que c'est là-dessus précisément que portait là, son travail...
Son travail scolaire.
Oui, puisque les croisés eux-mêmes, là, évidemment, ayant construit des forteresses essentiellement au Moyen-Orient lors des croisades durant le Moyen-Âge. Donc, il reste à ce moment-là 3 mois à peu près dans le monde arabe. Il décide de faire le voyage à pied alors qu'on lui conseillait de le faire à dos de mulet. Il décide d'y aller l'été en juillet, août et septembre alors qu'on lui conseillait fortement d'y aller lors d'une saison moins chaude, évidemment. Mais dès cette époque-là, il est quand même jeune à l'époque, là, il a une vingtaine d'années à peine. C'est déjà un personnage qui montre énormément de courage, énormément de volonté, comme de dépasser ses limites constamment. Puis alors qu'il le fait de manière qui lui avait été déconseillée, son voyage se passe quand même bien. Il couvre tout l'itinéraire.
C'était presque de l'inconséquence, là, faire ça à pied, là, sous le soleil, dans le désert.
Ouais, c'est très... c'est presque, ouais. Mais il en est revenu vivant, quand même. Puis il a déposé sa thèse, tout s'est très bien passé et tout. Mais c'est vraiment un travail monumental, puis ça montre déjà l'ampleur du personnage.
Ouais.
C'est ce qu'il lui a donné. Puis à la toute fin de ce voyage-là, à la toute fin de notre voyage, pardon. Donc là, c'est son premier voyage, puis ensuite, des années plus... l'année d'ensuite, il est engagé par le musée de l'université en tant qu'assistant pour participer aux fouilles archéologiques qui ont lieu là, dans le sud de la Turquie à ce moment-là. Donc, c'est son premier contact, entre autres, avec l'Empire turc, parce que le site où il se trouve est placé dans une localité gouvernée par les Turcs, donc il doit faire affaire avec eux. On voit certaines scènes assez cocasses quand on trouve dans sa correspondance. Et puis, il passe là plusieurs années, à peu près de 1911 à 1914, avec des brefs retours en Angleterre, mais il reste 3-4 bonnes années. Il apprend la langue, il apprend le territoire.
C'est durant cette période où il est vraiment inspiré par la culture arabe, où il apprend un petit peu à parler, où il commence déjà même à porter des vêtements arabes.
Oui, mais très peu à l'époque. Un peu, mais moins que par la suite, quand ça va lui être utile durant la guerre, là, carrément. Mais à ce moment-là...
Mais c'est là que ça lui a permis d'être en contact avec la culture, puis de...
Oui, puis surtout développer la langue et aussi connaître beaucoup le territoire. D'ailleurs, à la toute fin de la guerre, là, vraiment au début de 1914, il est approché, lui et son supérieur, là, directement rattaché à l'université, ils sont approchés par général de l'armée britannique qui a besoin de faire un relevé du désert du Sinaï, parce qu'eux, ils sentent ça venir l'éventuelle guerre avec la Turquie. Mm-hmm. Et puis, ils savent que s'ils ont à aller se battre là-bas, ben, ils doivent avoir une idée de quoi alors le terrain.
Oui.
Mais ils veulent le faire sous couvert de recherches archéologiques pour ne pas alerter les autorités turques.
C'était déjà un subterfuge.
Oui, donc c'est son premier emploi en tant qu'espion. Donc, on l'engage pour faire comme si il voulait, je ne sais plus, c'est subventionné par une organisation palestinienne juive, comme si des retracer le parcours des Juifs dans le désert dans l'Ancien Testament, quelque chose comme ça. Mais dans les faits, ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir une idée de quoi a l'air
le terrain
du désert pour pouvoir passer par là le moment venu. Puis c'est ce qu'il rapproche donc du quartier général militaire britannique, ce qui fait qu'au tout début de la guerre, il est engagé assez rapidement là, à l'agence de renseignement, d'abord au bureau de la cartographie à Londres, puis ensuite il est envoyé assez rapidement au Caire, au bureau arabe, d'abord comme agent de renseignement, donc essentiellement comme travail de bureau pendant les deux premières années de guerre. Puis ensuite, quand là, la révolte arabe explose en 1916, bien, il est envoyé directement sur le terrain. Puis là, ça déboule. Il passe les deux dernières années très impliqué.
Il s'est ramassé rapidement en conflit d'intérêts, en fait, hein, parce qu'il souhaitait la libération des pays arabes. Il est devenu très ami avec les gens avec qui il travaillait. Il s'est attaché à des personnes, à des familles qui, eux, voulaient la libération de leur nation. Mais lui, il savait que travaillant pour la couronne britannique, ces peuples-là ne seraient jamais indépendants. Finalement, ils passeraient de l'Empire turc à l'Empire britannique, puis c'est tout.
Oui, mais en fait, au tout départ, il ne le savait pas. Donc, au départ, ce qu'il incite à s'engager dans la révolte arabe, c'est essentiellement, puis c'est ce qu'il raconte d'ailleurs au tout début là, des sept piliers de la sagesse, c'est entre autres la rencontre d'un jeune homme qui s'appelait Daoum, à l'époque, ou un jeune arabe qui travaillait avec eux sur les chantiers archéologiques, dont on dit, bon, certains disent qu'il est tombé amoureux de lui, d'autres qu'il avait simplement une amitié très profonde. Bon, c'est un peu obscur comme bien des côtés de ce personnage-là. Et puis, ce qu'il voulait, en fait, pour honorer ce jeune homme-là, ça aurait été de lui offrir rien de moins que, on est dans le romantisme, mais à tout craint, en tout cas-là, c'est Saint-Valentin puissance 1000, donc lui offrir la liberté de son peuple, voyez-vous, rien de moins.
Oui.
Donc,
C'est un beau cadeau.
C'est un beau cadeau, n'est-ce pas? Puis il y a une lettre dans sa correspondance où il décrit les motifs qui l'ont incité à s'engager, puis c'est vraiment son motif premier qu'il nomme tout de suite. Je peux peut-être vous en lire un passage.
Oui, pourquoi pas.
Je l'avais déjà repéré. C'est très gros, hein, la correspondance.
Oui, oui. Vraiment. Ah oui, OK, ça, c'est la correspondance,
oui,
c'est pas les sept piliers. OK, oui.
Ouais. Puis on n'a pas tout même là-dedans, mais... Donc, il dit personnellement, il avait beaucoup d'affection pour un certain arabe et je pensais que la liberté de tous ceux de sa race constituerait un cadeau acceptable. Donc, premier motif. Ensuite, par patriotisme, je voulais aider à gagner la guerre et le concours des Arabes réduisait les pertes des Anglais par milliers. Donc, pour aider son propre pays, finalement, parce qu'il se rendait bien compte que c'était ça avait un impact. Par curiosité intellectuelle, troisièmement, je voulais savoir ce que ça fait d'être le ressort principal d'un mouvement national et de voir les gens s'exprimer à travers moi par millions. Puis, étant moitié poète, je n'accorde que peu de valeur aux choses de ce monde. Affectivité et pensée me paraissaient beaucoup plus importantes, et la chose, comme l'élan qui nous porta dans les murs de Damas, est la seule chose qui vaille la peine d'être réalisée. Donc, il y a ce côté-là aussi.
Oui, l'idéal. Grandeur, hein?
Oui, c'est un personnage très, très, très porté par l'idéal. Et quatrièmement, l'ambition. Donc, qui est décrit comme la quatrième,
motivation.
Quatrième motivation. Puis un peu plus loin dans la lettre, qu'il écrit à un correspondant qui essaie de le ramener, parce que là, ça se passe, cette lettre-là, un peu après la guerre, là, qui essaie de le convaincre de continuer à travailler pour les Arabes. Ben, dit, ben, en gros, motif 1, ben, le mec, il est mort, donc on va pas le ressusciter. Motif 2, le patriotisme, la guerre est finie, plus besoin de raison de lutter pour ça. Motif 3, l'ambition, ben, une fois que c'est réalisé, ça s'annule soi-même, donc il reste plus rien. Quoi. Donc, il, très rapidement, il tombe dans la désillusion.
Dans la désillusion. Oui, parce qu'il voulait aussi, il souhaitait aussi créer un nationalisme arabe extérieur à la religion.
Oui, en fait, pas tant qu'il souhaitait le créer que...
L'encourager.
Oui, c'est sûr, en fait, qu'il était conscient du fait que ça constituait, disons, un tournant important dans l'histoire du 20e siècle, le fait que cette révolte arabe-là se soit constituée sur la base de la nationalité et non pas sur la base religieuse. Parce que dans ce cas-là, on a donc les Arabes qui décident de se révolter contre les Turcs, ce qui est une révolte importante puisque bon, il s'agit de deux peuples de langue arabe et deux peuples de religion musulmane, et ils se révoltent contre les Turcs en ayant comme alliés les Français et les Anglais, soit des chrétiens, donc des païens à leurs yeux. Donc là, la scission religieuse est mise de côté, et c'est la nationalité qui prend le pas, donc la constitution de nationalité arabe et la lutte pour la défense de cette nationalité-là, sans tenir compte du fait que pour cela, on va se battre entre musulmans. Parce que c'est dans les faits ce qui arrive. Là, oui. Le shérif de la Mecque décide de se battre contre le sultan de Constantinople. Ben, c'est une guerre quasiment intra-religieuse.
Tout à fait. Et donc, à la fin de la guerre, en 1918, on en est où au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le tableau?
Ben, le tableau, c'est en gros donc que Lawrence voulait offrir la liberté de son peuple, comme on le disait tout à l'heure, la liberté arabe au peuple arabe. Et assez rapidement dans la guerre, il apprend que dans les faits, les Anglais et les Français ont déjà passé des accords entre eux qui font en sorte que si les territoires sous domination turque sont libérés, ben, ils vont être partagés de telle manière. La Syrie ira à la France, nous on va se prendre telle partie pour le pétrole, etc., etc. Et ça, c'est une chose que Lawrence apprend assez tôt parce que lors de la révolution bolchevique, les Russes, eux, voient les papiers dans les... Puis c'est les bolcheviques, en
c'est
fait,
vraiment qui... vraiment d'espionnage.
Donc, les bolcheviques diffusent l'information qui aurait dû, en principe, être tenue secrète. Et Lawrence lui-même est également informé. Puis c'est quelque chose qui court durant toute l'œuvre dans les sept pieds de la sagesse. Cette dualité très forte là, qu'il ressent lui-même, puisqu'il se fait auprès des Arabes l'apôtre de la, ben, de l'indépendance puis de la révolte pour la liberté, tout en sachant très bien à l'intérieur de lui-même que, compte tenu des accords conclus, ben, une fois que les pays seront libérés au profit des Occidentaux et non pas pour donner la liberté aux Arabes. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, lui va participer de très près aux accords de paix qui vont être signés là, en 1920-21.
Oui, il était conseiller de Churchill, je pense.
Oui, tout à fait. Donc, c'est Churchill qui s'occupe à ce moment-là là, de ben, régler entre autres, ben, il y en avait d'autres questions. C'est pas la seule question que soulevait la fin de la Première Guerre mondiale, mais entre autres la question arabe. Et lui participe à ces accords-là pour tenter un peu de ramasser les pots cassés, en quelque sorte, puis de faire en sorte que les Arabes sortent de là en ayant au moins quelque chose. Ce qui arrive dans les faits, c'est ce qui va mettre sur pied ce qu'on appelle la politique des mandats. Qui en principe aurait dû être un peu la porte ouverte à l'indépendance des pays, c'est-à-dire par exemple la Syrie, bon, c'était sous mandat français, donc les Français étaient en principe là pour les aider, les conseiller un peu sous forme de tutelle en quelque sorte, pour éventuellement faire en sorte que les pays puissent accéder à l'indépendance, un peu comme on le voit en Irak aujourd'hui, les Américains sont là puis finissent par partir puis on leur donne la gouvernance du pays. Et les Anglais ailleurs, et etc. Puis dans les faits, ben, cette politique des mandats-là a plutôt préparé le terrain à la constitution des colonies telles qu'on va les connaître là, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un échec. Et Lawrence, de ça, il en était très conscient. On le sait entre autres parce que, bon, d'une part, après la guerre, il a coupé absolument tous les liens avec, tu sais, il a changé de nom.
Oui.
Il a refusé tous les honneurs qui auraient pu être attachés au fait d'avoir participé à la guerre. Il a refusé d'obtenir une solde en tant qu'ancien soldat.
Oui, c'est ça. Ça nous semble très curieux quand on regarde ça avec le recul aujourd'hui. C'est qu'il décide de retourner dans l'armée comme simple soldat. Alors, on se dit, il aurait pu faire tellement d'autres choses. Puis, il me semble que simple soldat, c'est pas quelque chose qui est très agréable.
Oui, ça, c'est sa décision après, donc une fois les accords, les accords de paix conclus, puisqu'il doit quand même vivre. Il a publié un peu plus tard les 7 piles de la sagesse, mais il refuse de recevoir aucune sorte de rémunération de tout ce qui a trait à son implication dans la révolte arabe. Parce que pour lui, entre autres, c'est vraiment... il n'a pas la conscience nette par rapport à ça. Il a travaillé pour quelque chose, puis le résultat a été différent. Donc, il ne veut vraiment pas en tirer profit de quelque manière que ce soit, un point que même le livre qu'il a écrit, il en a publié de son vivant une édition abrégée, parce que l'édition en tant que telle, complète, a été publiée seulement après sa mort. Il refusait que l'édition complète soit publiée de son vivant. Et puis, de l'édition abrégée qui a rapporté quand même assez d'argent, ben, il a signé un contrat faisant en sorte que tout le profit amassé devait être versé à un organisme charitable. Parce qu'il ne voulait pas, même si c'était sa propre œuvre littéraire, retirer un quelconque profit du fait d'avoir aidé tout ce qui découlait finalement de son implication dans le monde arabe.
Oui, c'est une grande intégrité.
Oui, tout à fait. Puis pour couper complètement là, tout lien avec son ancienne vie, ben, il s'engage comme simple soldat dans l'armée britannique, ce qui lui permet entre autres de se cacher, parce que très rapidement, il y a une réputation absolument gigantesque, entre autres parce que les Américains font des reportages sur lui, il passe pour une espèce d'espion incroyable. Il y a tout un mythe là, qui grandit très, très vite à son sujet.
Oui, c'est ça, il y a toute la mythologie qui est venue ensuite.
Puis lui,
il avait fait paraître beaucoup d'articles dans les journaux britanniques aussi pour essayer de sensibiliser la population, donc il était un peu connu.
Oui, ben, il a fait ça là, durant ses années politiques, entre guillemets, donc après la guerre, là, pendant qu'il était... Il travaillait en même temps, d'une part, à l'écriture des 7 piliers de la sagesse, au travail différentes conférences de paix là, pour régler les accords entre les Arabes et le monde occidental.
Mm-hmm.
Puis il travaillait aussi à un peu éduquer, sinon influencer l'opinion publique pour leur expliquer un peu ce qui s'était passé durant la guerre, ce qui devrait être fait, comment on devrait se conduire, etc. Donc, il publie une série d'articles qui sont, entre autres, regroupés dans la correspondance qui est traduite en français.
OK. Et donc, là, il a dû faire face à la meute de journalistes, j'allais dire en fin de carrière, mais après tout ça?
Oui, en fait, plus ou moins parce que, précisément, il décide de se retirer complètement de la vie, littéralement. Oui. Il devient presque un mort-vivant, en quelque sorte, en devenant le simple soldat, puis passe une bonne 10-15 ans là, encaserné, d'abord sur le territoire anglais.
En Arabie?
En partie sur le territoire anglais, puis ensuite, il est affecté en Inde, puis en Afghanistan.
OK.
À la toute fin de sa carrière de simple soldat. Là. Mais ça lui cause toujours des problèmes, là, par exemple. Là, au tout départ, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est devenir un soldat aviateur. Ça l'intéresse énormément. Puis assez rapidement, au tout début de son engagement comme soldat, alors que toute la hiérarchie lui dit « Non, mais monsieur, vous devriez devenir officier ou, tu sais, lieutenant ou quelque chose. Vous êtes quand même quelqu'un. » Mais lui refuse absolument. Il veut rester simple soldat. Et puis, assez rapidement, les journaux ont connaissance de la chose. Puis ça embête tellement la hiérarchie militaire de savoir que lui, c'était ce qu'on appelle à l'époque le roi sans couronne, qui a une immense réputation, qui est connue de tout le monde, se cache, en quelque sorte, entre leurs rangs, qui éjecte, donc qui est démobilisé, là, il peut pas rester dans l'aviation britannique. Donc, il doit démissionner, puis finalement réengager sous un autre nom par la suite, parce que les journalistes sont toujours à sa trace.
Ah oui, c'est ça, il a changé de nom à un moment donné.
Oui, également. Il change 2 ou 3 fois de nom au courant de sa vie. Puis ce qui est intéressant, c'est de savoir que même à la base, ce nom de Lawrence, donc Thomas Edward Lawrence, est pas vraiment... c'est pas son vrai nom, parce que en fait, c'est un nom qu'avait pris son père. C'est-à-dire que c'est pas un nom d'un point de vue généalogique avéré, parce que lui-même est un enfant d'une famille illégitime. Puis son père, là, quand il a quitté sa première épouse pour partir avec sa deuxième épouse sans se marier avec elle, il a renoncé à son nom d'origine puis a pris un faux nom. Donc, à la base, Lawrence naît sous un faux nom, en quelque sorte, et on a, au courant de sa vie, toujours cette espèce de course au nom véritable où donc il change de nom constamment, il change d'identité. On sent profondément une identité troublée, en quelque sorte, là.
OK. Et il y a un point de vue spécial sur la simplicité volontaire. Hein? Il y a aussi une philosophie cachée derrière ça, dans le fait d'être simple soldat, d'être mécanicien, de faire des tâches simples.
Oui, ben, il y a plusieurs choses qui motivent son choix. Entre autres, il y a un motif qu'on pourrait qualifier de littéraire, donc pour devenir un simple soldat. Mm-hmm. Il le dit dans sa correspondance, parce que faut quand même comprendre que l'écriture des Sept Pieds de la Sagesse a été aussi un tournant, c'est-à-dire cet exercice-là pendant plusieurs années de se plonger dans l'écriture d'un livre. Je pense que ça l'a un peu, ça l'a titillé. Il a bien aimé l'expérience malgré toutes les difficultés que ça comporte. Et puis il voulait continuer, donc entre autres, il passe des années donc comme simple soldat retiré dans les casernes, mais il est en contact entre autres avec Bernard Shaw, avec plein de grands écrivains célèbres de l'époque, et aussi avec des éditeurs de revues. Il publie des critiques littéraires dans les journaux. Il fait une traduction de l'Odyssée d'Homère. Il rédige quelques nouvelles. Donc il y a cet intérêt littéraire très profond, et c'est une des choses qui l'incite à devenir simple soldat. Il dit lui-même. Mon dernier livre sur l'Arabie est presque un bon livre. Je vois dans la jeunesse de votre force, c'est-à-dire l'armée de l'air, à laquelle il veut participer, le genre de sujet qui me convient. Et le meilleur emplacement pour voir quelque chose se situe au niveau du sol. Je ne saurais écrire à l'étage des officiers. Donc, il y a cette volonté-là de se plonger dans le terreau, en quelque de l'armée, pour pouvoir en publier un ouvrage en ayant une meilleure vue au ras du sol, au ras des pâquerettes, en quelque sorte. Puisqu'il va donner un second livre qui est publié sous le nom de La Matrice, que j'ai pas lu, mais qui raconte en quelque sorte son expérience dans la Royal Air Force.
En tant que soldat.
En tant que simple soldat. Puis il y a d'autres motifs, là, essentiellement, qui incitent à son engagement comme simple soldat. Entre autres, lui permettre de s'éloigner de tout le brouhaha causé autour de son œuvre, qui est déjà connue, puis donc de s'éloigner du mythe qui a été créé autour de sa propre personne, pouvoir se retirer, vivre isolé. Au départ, avant d'être engagé, de s'engager dans l'armée, il a demandé à être gardien de phare, mais tous les postes étaient pourvus, paraît-il. Donc, on voit bien quand même son espèce d'idéal de solitude, puis il raconte souvent dans ses lettres, il dit « Ah, ben moi, quand je vais avoir quitté l'armée, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un poste comme veilleur de nuit dans une quelconque banque, où on travaille la nuit, on voit personne, on est tout seul, puis on se casse pas la tête. » Parce qu'il faut comprendre que, bien sûr, il y avait quand même besoin de moyens de subsistance.
Là.
Refusé tout seul durant son travail militaire. Après coup, refusé toute pension de la part de l'armée parce qu'il voulait rien recevoir. Puis ensuite, refuser également d'obtenir de l'argent de ses livres. Donc, il était vraiment réduit à ce qu'il pouvait gagner comme simple soldat, ce qui n'est pas grand-chose, une petite pension. Donc, il devait vraiment travailler pour vivre. Ce qu'il n'a pas dû faire très longtemps, puisque à l'âge de 45 ans,
il
quitte l'armée, il est démobilisé, il rentre en Angleterre, puis 6 mois plus tard, il meurt dans un accident de moto. Donc, ça règle la
destin.
Question, n'est-ce pas? Donc, d'un bout à l'autre, c'est vraiment un personnage fascinant.
Oui, tout à fait.
L'œuvre elle-même également est fascinante parce qu'elle raconte vraiment au jour le jour, en quelque sorte, comment se produit cette révolte arabe-là, comment les forces s'organisent, les différents combats qui sont menés. Si vous aimez un peu la littérature, par moments, c'est un peu sec.
OK.
C'est très descriptif, très objectif. Là, lui-même s'est basé en partie sur les rapports qu'il envoyait au service de renseignement britannique. Qui était truffé de détails là, du genre l'état des sols, la position des puits, des villes, pour que l'armée puisse avoir une idée exacte du relevé du territoire là, pour pouvoir s'y poser, puis envoyer des ravitaillements là où il fallait. Donc le livre a cet aspect-là quand même d'objectivité militaire, en quelque sorte, mais c'est également truffé là, de réflexions philosophiques, entre autres sur son rapport au corps, à la souffrance, son rapport à l'ascétisme, en quelque sorte. Peut-être vous lire un passage qui est assez révélateur de ce point de vue-là.
Parce que c'est ça, c'est que Les Sept Piliers, c'est à la fois un roman d'aventure, un roman politique, puis en même temps un roman philosophique, parce qu'il y a toutes sortes de réflexions personnelles à travers.
Oui, c'est une œuvre qui est très, très personnelle. Au départ, moins, là, on a, pour commencer, vraiment l'état plutôt historique, géographique, là, d'état des forces arabes, etc. Donc, quelque chose de très objectif au départ. Puis plus on avance, plus lui-même s'implique directement dans la révolte. Plus il est personnellement impliqué là-dedans, puis plus il vit des choses aussi personnellement troublantes, Les blessures, enfin, il est parfois maltraité, il est parfois c'est des situations difficiles. Donc, c'est son propre personnage prend de plus en plus d'espace. Puis bon, il s'en cache pas dès le début, c'est la révolte arabe, mais c'est mon implication dans la révolte arabe. Mm-hmm. Il n'y a aucune espèce de tentative à l'objectivité pure là-dedans. Puis un passage qui est assez révélateur de cet aspect personnel de son œuvre. Il écrit « La pratique de cette guerre fortifie en moi l'attitude nihiliste. Nous y vîmes souvent des hommes se contraindre ou être entraînés aux limites les plus cruelles de la résistance, sans jamais le moindre signe d'une rupture physique. L'écroulement provenait toujours d'une faiblesse morale qui rongeait le corps par l'intérieur, sans trahison intime. Celle-ci ne pouvait rien sur la volonté. Au cours de nos longues marches, nous allions dépouillés de corps, ignorant la chair et les sensations, et lorsque pendant un arrêt cette excitation tombait, nous retrouvions nos corps avec une sorte d'hostilité, cette certitude méprisante qu'ils accomplissaient leur fin la plus haute, non pas en servant à l'esprit de véhicule, mais lorsque, après la dissolution, leurs éléments fumaient un coin de terre. »
C'est beau.
C'est beau, puis à la fois c'est très très sombre, puis ce courant très, ben, justement nihiliste, comme il le dit lui-même, et ce courant vraiment de mépris de tout ce qui concerne le corps est très très présent là, tout au long de l'œuvre, puis on se demande presque à la lecture si ce désir d'aller plus loin, de repousser les limites, de franchir les limites de la tolérance physique en quelque sorte, là, et pas intimement lié à ce rapport au corps très troublé finalement qu'on sent chez lui.
Oui. En terminant, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un livre aussi qui devient très pertinent avec la révolte dans les pays arabes pour mieux comprendre d'où vient tout ça?
Oui, ben personnellement, c'est ce qui m'a incité à le lire cet hiver. Là, je l'ai lu récemment. En le revoyant sur les tablettes, je me dis, c'est particulièrement justement pertinent pour comprendre où se situent les peuples arabes en ce moment, d'où ils viennent, comment ils en sont arrivés là. Mm-hmm, mm-hmm. Puis ça permet de bien mettre en lumière cette espèce de seconde, parce qu'on en est là en quelque sorte, de seconde révolte arabe contre l'envahisseur, qui est un envahisseur de l'intérieur en ce moment, qui était l'envahisseur étranger à l'époque. Mais ça met, compte tenu de la sensibilité de Lawrence à l'esprit arabe en quelque sorte, puis sa connaissance profonde de la psychologie humaine, ça met bien tout ça en relief.
Bien, merci beaucoup, Roxane. On conseille ça à tout le monde, donc les 7 piliers de la sagesse.
Oui, puis surtout, laissez-vous pas rebuter par le titre, hein, qui
oui,
a l'air très pédant et très... un titre qui est sorti un peu de nulle part, mais il faut franchir la limite de la page couverture et plonger dans l'œuvre.
Merci beaucoup. On va faire une pause musicale. On va écouter la pièce « Lacrimosa » de Mozart.
Alors, la modeste proposition concernant les enfants des classes pauvres. Comment soulager leurs parents et la nation de la charge qu'ils représentent? Comment les utiliser pour le bien public? De Jonathan Swift. Rien n'est plus affligeant pour quiconque traverse la capitale ou voyage en province que le spectacle de ces mendiants encombrant les rues, les routes ou le seuil des masures, suivis de 3, 4 ou 6 enfants en groupe déguenillés qui harcèlent le passant de leurs mains tendues. Ces mères de famille pourraient être d'honnêtes travailleuses. Seules les lancent toute la journée à la rue l'obligation de mendier le pain de leurs jeunes enfants, qui périraient sans elles, mais dont le chômage fera plus tard soit des brigands, soit des mercenaires, du prétendant, en Espagne, loin de leur chère patrie, soit des esclaves volontaires dans les îles Barbades. C'est une vérité admise, je crois, par tous les partis, que ce nombre prodigieux d'enfants sur les bras, le dos ou les talons de leur mère, et fréquemment de leur père, est, dans le déplorable état présent du royaume, un très gros ennui supplémentaire. Par conséquent, tout procédé radical, bon marché et facile, permettant une intégration durable et heureuse de ces enfants à la richesse nationale, serait d'un tel intérêt pour le bien public que son inventeur mériterait pour le moins qu'on lui élevât une statue comme bienfaiteur de la nation. Mais je n'ai pas l'intention, loin de là, de limiter mon projet aux seuls enfants des mendiants professionnels. Je le conçois comme un bien plus vaste et englobant la totalité des enfants d'un âge donné, dont les parents sont aussi peu en état de les nourrir que les gens qui nous demandent la charité dans la rue. Pour mon compte, plusieurs années de réflexion consacrées à cet important problème et un examen attentif des projets d'autres auteurs m'ont fait découvrir dans chacun de ceux-ci de grossières erreurs de calcul. Un fait est certain. Pendant une année solaire à compter du jour où elle a mis bas, une mère peut faire vivre un enfant de son lait. Ajoutons-y un très petit complément de nourriture, évaluable à moins de 2 shillings, somme que l'exercice légal de la mendicité lui procurera certainement en numéraire ou sous une forme de relief de table. Mon projet concerne les enfants d'exactement cet âge, d'un an, et vise, au lieu de les laisser être un fardeau pour leurs parents ou la paroisse, et manquer de pain et de vêtements tout le reste de leur vie, à les faire contribuer à l'alimentation et en partie à l'habillement de nombreux milliers d'hommes. Mon plan n'est pas sans comporter un autre avantage, celui de faire disparaître les avortements volontaires et cette horrible pratique de l'infanticide qui est, hélas, trop fréquente parmi nos filles elles-mêmes, parmi nos filles-mères, j'ai été déconcentré, et dont je vois plutôt la cause dans la peur des dépenses que dans la honte. Ce sacrifice de pauvres bébés innocents arracherait des larmes de compassion au cœur le plus sauvage et le plus inhumain. Il ressort du chiffre de 1,5 million d'âmes, auquel s'élève, croit-on, la population irlandaise, que celle-ci comprend 200 000 couples environ dont la femme est reproductrice. Retranchons 30 000 couples qui sont en état de faire vivre eux-mêmes leurs enfants, chiffre un peu forcé, je le crains, vu la détresse actuelle du royaume, mais ceci posé, il nous reste 170 000 reproductrices. Retranchons encore 50 000 pour les fausses couches et les morts d'enfants de moins d'un an par accident ou maladie. Il reste donc qu'il naît chaque année dans les familles pauvres un total de 120 000 enfants. Comment élever ces multitudes? Comment leur assurer un avenir? C'est là le problème et, je le répète, dans la situation présente des affaires, tous les autres projets le laissent sans solution. Car on ne peut trouver d'emploi, ni dans l'industrie, ni dans l'agriculture. La construction est en sommeil, du moins en province, les champs sont en friche. Vivre de rapine, cela n'est possible, avant l'âge de 6 ans, que pour les sujets exceptionnellement doués. Je concède que les rudiments du métier peuvent s'apprendre bien plus tôt, mais sans qu'on dépasse, à vrai dire, le stage de l'apprentissage. Je tiens ces données d'une importante personnalité du comté de Cavan, qui m'a assuré ne pas connaître plus d'un ou deux voleurs qualifiés de moins de 6 ans, bien que les naturels du pays soient fameux pour leur précocité en cet art. Nos marchands eux-mêmes m'ont révélé qu'au-dessous de 12 ans, ni les filles ni les garçons ne trouvaient acheteurs, et que ceux-là même qui arriveraient à cet âge font tout juste le prix de 3 livres ou 3,5 livres, ce qui n'est payant ni pour les parents ni pour la nation, les frais de nourriture et de haillons s'étant élevés au moins à 4 fois cette somme. J'en arrive donc à exposer humblement mes propres idées qui, je l'espère, ne soulèveront pas la moindre objection. J'ai connu à Londres un Américain fort compétent, lequel m'a révélé qu'un bébé sain et bien nourri constitue, à l'âge d'un an, un plat délicieux, riche en calories et hygiénique, qu'il soit préparé à l'étouffée, à la broche, au four ou en pot-au-feu. Et j'ai tout lieu de croire qu'il fournit de même d'excellentes fricassées et ragoûts. L'humble plan que je propose au public est donc le suivant. Sur ce chiffre de 120 000 enfants que j'ai avancé, on en réserverait 20 000 pour la reproduction, dont le quart seulement de mâles, proportion supérieure à celle de nos troupeaux d'ovins, de bovins ou de porcs, et justifiée par les très nombreuses naissances hors mariage des enfants en question. Nos sauvages n'attachent que peu d'importance au fait d'être mariés ou non, rien ne s'oppose à ce qu'un seul mâle serve quatre femelles. On vendrait les 100 000 autres à l'âge de 1 an. On les proposerait à la clientèle la plus riche et distinguée du royaume, non sans prévenir les mères de leur donner le sein à satiété pendant le dernier mois, de manière à les rendre gras à souhait pour une bonne table. Si l'on reçoit, on pourra faire 2 plats d'un enfant. Si l'on dîne en famille, on pourra se contenter d'un quartier, avant ou arrière, lequel, légèrement salé et poivré, fournira un excellent pot-au-feu le 4e jour, spécialement en hiver. Alors, selon mes calculs, le poids moyen d'un nouveau-né est de 12 livres. Avec une bonne nourrice, il peut atteindre 28 livres en une année solaire. J'admets qu'il s'agit d'un comestible cher, et c'est pourquoi je le destine aux propriétaires terriens. Ayant sucé la moelle des pères, ils semblent les plus qualifiés pour manger la chair des fils. Les arrivages de viande de nourrissons doivent être abondants toute l'année, mais avec une pointe de fin février à début avril, car un auteur sérieux, un éminent médecin français, nous assure que, grâce aux heureux effets du poisson sur le pouvoir génésique, les pays catholiques romains connaissent, 9 mois environ après le carême, une forte augmentation de leur natalité. C'est donc avec un décalage d'un an par rapport au carême que les marchés seront les mieux fournis, vu le grand nombre des nourrissons papistes, 75% du total en Irlande. Signalons au passage cet autre avantage de mon plan, réduire chez nous le nombre de papistes. Alors, comme je l'ai noté plus haut, il doit en coûter à une mendiante environ 2 shillings, ayons compris, pour faire vivre un enfant pendant une année. On peut assimiler à des mendiants tous les métayers et domestiques agricoles, ainsi que les 3/4 des fermiers. Et je crois d'autre part que tout gentilhomme prêt à débourser 10 bons shillings pour un nourrisson de boucherie engraissé à point. Je répète qu'il s'agit d'une viande excellente et nutritive, dont chaque pièce fournit 4 plats, que l'on reçoive ou non, ou que l'on dîne seul. Ainsi, les obreaux sauront se montrer bons propriétaires et verront leur popularité croître parmi leurs métayers. Les mères, de leur côté, feront un gain net de 8 shillings et seront disponibles pour le travail jusqu'à produire un autre enfant. Pour ne rien laisser perdre, et j'avoue que la durée des temps pousse à l'économie, on pourra écorcher la pièce avant le dépeçage. La peau, traitée selon les règles, fournit d'admirables gants de dame et des chaussures d'été très habillées pour mes yeux. Comment adapter à ce nouveau marché notre ville de Dublin? Une solution serait l'aménagement d'abattoirs dans les quartiers les plus favorisés. Le recrutement de dépeceurs ne paraît pas poser problème. Néanmoins, la clientèle aurait intérêt, selon moi, à acheter les enfants tout vivants et à les préparer au sang, comme les cochons de lait. J'ai soumis récemment mon plan à une personne de haute valeur et d'indéniable patriotisme, dont je prise fort les vertus, et qui a bien voulu me proposer l'amendement que voici. Selon lui, nous manquons de bêtes de chasse. De nombreux seigneurs irlandais, ayant à la longue exterminé leur gros gibier, on pourrait leur offrir comme succès d'année les corps de garçonnets et de fillettes de 12 à 14 ans, ni plus jeunes ni plus vieux. Ceux-ci, de toute façon, sont destinés à mourir de misère, ni les hommes ni les femmes ne trouvant d'emploi dans aucune province. La décision serait laissée à leurs pères et mères, ou à défaut, à leurs plus proches parents. Je salue en cet excellent ami le patriote de grand mérite. Mais je ne puis, malgré tout, partager son avis, car la viande de garçon est mauvaise, c'est l'avis de cet Américain très versé en la question. De plus, le surmenage la rend coriace et maigre, voyez nos écoliers. Et l'embouche ne serait pas rentable. Les filles, de leur côté, sont sur le point de passer reproductrices, et il serait anti-économique, à mon humble avis, de les sacrifier à cet âge. Une dernière objection. Certaines personnes scrupuleuses n'iraient-elles pas jusqu'à prononcer le mot de cruauté à propos d'une pratique de ce genre? Le reproche est ici sans fondement, certes, mais j'estime que rien n'est pire pour un projet, si haut vise-t-il, que d'y prêter le flanc. Ne jetons pourtant pas la pierre à mon ami. L'idée de cet expédient n'est pas de lui. Elle lui vient, m'a-t-il révélé, du fameux Salmanazar, naturel de l'île de Formose, qui y passa par Londres voilà 20 ans et qui lui fit, entre autres, le récit suivant. Dans son pays, quand le condamné à mort se trouve être une jeune personne, le bourreau vend le corps aux personnes de qualité, comme un morceau de premier choix. Il avait connu le cas d'une jeune fille de 14 ans qui fut crucifiée pour avoir tenté d'empoisonner l'empereur et qui était fort rondelette. Son corps, dépecé au pied du gibet, fut vendu au premier ministre de Sa Majesté et à d'autres hauts mandarins de la cour pour 400 couronnes. Et ce n'est pas moi qui irai dire que si le même usage était fait de certaines jeunes dondons de la ville qui, sans un sou vaillant, ne sortent qu'en chaise et se montrent au théâtre et aux assemblées dans les atours d'importation, qu'elles ne paieront jamais, le royaume y perdrait grand-chose. Certains esprits chagrins se tourmentent au sujet du grand nombre de miséreux âgés, malades ou infirmes, et j'ai invité à orienter mes recherches de ce côté-là. Par quel procédé pourrait-on libérer la nation de ce véritable carcan? Voir, pour moi, il n'y a pas là ombre d'un problème. Chacun sait que la faim, le froid, la crasse et la vermine les expédient tous les jours par plein charnier. Il n'y a aucun motif d'être impatient, et les perspectives sont aussi rassurantes en ce qui concerne les ouvriers plus jeunes. Ils sont sans travail, et la sous-alimentation les débilite à tel point que si, par accident, ils trouvent un jour de l'embauche, un effort des plus ordinaires les tue, à coup sûr, les mettant ainsi que la nation à l'abri des maux inhérents à la vieillesse. Trêve de digression, je reviens à mon sujet, c'est-à-dire à ma proposition. Ces avantages, à mon avis, sautent aux yeux, et plusieurs d'entre eux sont d'une importance capitale. D'abord, comme je l'ai dit plus haut, on verrait baisser beaucoup le nombre des papistes qui se font chaque année plus envahissants grâce à leur forte natalité et qui sont nos plus dangereux ennemis. Ne demeurent-ils pas en Irlande avec l'intention bien arrêtée de la livrer aux prétendants, mettant à profit l'absence de tant de bons protestants qui ont choisi de s'exiler plutôt que de payer contre leur conscience la dîme à un desservant épiscopalien? Deuxièmement, les plus pauvres fermiers posséderont enfin quelque chose à faire saisir pour payer leurs propriétaires. On sait que les bêtes et grains sont toujours saisis depuis longtemps et que l'argent est une chose inconnue. Troisièmement, étant établi qu'il en coûte, au bas mot, 10 shillings par annum pour faire vivre chacun de ces 100 000 enfants de 2 ans et au-dessus, le compte économique de la nation y gagnera 50 000 livres par annum, sans compter l'apport d'un nouvel aliment introduit sur les tables des gourmets, qui appartiennent aux classes riches du royaume. D'où un accroissement de la circulation monétaire, les biens consommés étant entièrement irlandais, d'origine et de manufacture. Quatrièmement, la vente des enfants, s'ils naissent à une cadence soutenue, peut rapporter 8 shillings per annum à une reproductrice, tout en réduisant à 1 an le temps où elle les aura à sa charge. Cinquièmement, ce nouveau plat attirera certainement de nombreux clients dans les auberges dont les patrons ne manqueront pas de les préparer à la perfection en mettant au point les meilleures recettes pour faire de leurs établissements le rendez-vous des gastronomes les plus distingués et les plus fiers de leurs compétences. Et un habile cuisinier, bon juge des vrais désirs de ses hôtes, saura combiner les repas coûteux qu'ils apprécient. Sixièmement, mon plan renforcerait grandement l'attrait du mariage que toutes les nations censées ont soit encouragé par des récompenses, soit protégé par des lois et des sanctions. Il augmenterait le dévouement et la tendresse des mères pour leurs enfants. Comment ne pas les chérir, ces pauvres bébés dont elles tiraient leur subsistance et dont l'intervention de la société ferait une source de revenus annuels au lieu d'une occasion de débours? nous verrions vite naître une saine émulation entre les femmes mariées. Laquelle de nous portera au marché le bébé le plus gras? Les maris, de leur côté, seraient aussi fiers de leur femme enceinte qu'ils le sont aujourd'hui de leur jument ou de leur vache pleine, de leur truie sur le point de mettre bas. Et la crainte d'un avortement les détournerait de lever le poing ou le pied contre elles, comme elles le font trop fréquemment. On peut énumérer de nombreux autres avantages. Consommation moindre de bœuf de boucherie, 1000 bêtes environ par an qui viendront grossir nos exportations de viande salée. De même pour le porc, la production de lard y gagnera. Elle a beaucoup souffert jusqu'ici des nombreux abattages de porcs consommés surtout comme viande fraîche. Et quelle viande fraîche, peut rivaliser en saveur comme en somptuosité avec un succulent bébé d'un an, gras à souhait et rôti tout d'une pièce? Le banquet du Lord Maître ou toute autre réjouissance publique se feront gloire d'en mettre un à leur menu. Mais passons, il serait bien trop long de tout dire. Pour Dublin même, on peut évaluer à 1000 familles les acheteurs habituels de viande de bébé. Mais en comptant les achats exceptionnels pour les agapes familiales, tels que mariage ou les baptêmes, la ville offrirait un débouché pour environ 20 000 pièces. Les 80 000 autres s'écouleraient dans le reste du royaume, à un prix sans doute un peu inférieur. Mon plan me paraît inattaquable. La seule objection possible serait celle-ci. Ne va-t-il pas provoquer un véritable dépeuplement du royaume? C'est entendu et c'est exactement son intention déclarée. Mais j'insiste auprès du lecteur qu'il sache bien que mon remède n'est conçu que pour le seul royaume d'Irlande pris individuellement et pour nul autre état au monde, passé, présent et sans doute à venir. Qu'on ne me parle donc pas d'autres expédients possibles. Taxe de 25% sur les revenus des non-résidents, priorité absolue aux textiles et aux autres biens de consommation d'origine et de fabrication irlandaise, boycott rigoureux des articles de luxe en vogue à l'étranger, campagne contre l'orgueil, la vanité, la paresse et la futilité des femmes qui nous ruinent, implantation de l'esprit d'économie, de la prudence et de la tempérance. Sursaut de patriotisme, car sur ce point, nous sommes plus bas que les lapons et les habitants de Topinambou. Fin de nos querelles, de nos divisions. Ne plus ressembler aux juifs qui s'égorgeaient entre eux pendant que la ville était prise. Un peu de scrupule avant de brader notre patrie et nos consciences. Un appel aux propriétaires terriens, qu'ils aient quelques traces de pitié pour leurs fermiers. Et enfin, un effort auprès des commerçants. Leur montrer ce que c'est que l'honnêteté, l'activité, la compétence. Car que ferait-il si triomphait maintenant le principe de n'acheter que des produits de l'Irlande? Il tricherait à qui mieux, il nous escroquerait sur la valeur, la mesure et la qualité. Et il resterait réfractaire à la notion même de juste prix, en dépit des exhortations les plus solennelles. Je le répète, que valent tous les expédients de ce genre? Y a-t-il le moindre espoir qu'on prenne un jour à cœur de les mettre pour de bon en pratique? Alors qu'on ne m'en rabatte pas les oreilles. J'ai passé moi-même des années à brasser des théories vaines, inefficaces, utopiques. J'avais perdu tout espoir d'aboutir. Puis je suis tombé sur ce plan, qui est révolutionnaire, j'en conviens, mais qui a quelque chose de solide et de réel, qui n'exige ni dépenses ni fatigue, que nous pouvons exécuter entièrement par nous-mêmes et qui ne court aucun risque de mécontenter l'Angleterre. Car il ne peut être question d'exporter la viande d'enfant. Elle est d'une consistance trop tendre pour supporter un long séjour dans le sel, encore que j'aie sur la langue le nom d'un pays qui n'aurait pas besoin de sel pour dévorer tout notre peuple et avec appétit. J'ajouterai que, loin de me cramponner à mon système, je suis prêt à accueillir les solutions proposées par tout bon esprit, si elles s'avérèrent aussi innocentes, bon marché, faciles et efficaces. Mais que de telles solutions existent, qu'elles aillent à l'encontre de mon projet ou qu'elles s'y substituent, j'attire l'attention des auteurs sur deux questions préalables. Premièrement, dans la conjecture actuelle, comment vont-ils nourrir 100 000 bouches inutiles et vêtir 100 000 corps? Deuxièmement, tenant compte de l'existence, à travers tout le royaume, d'un bon million d'êtres apparemment humains, que personne ne peut envisager de maintenir tout en vie sans un déficit de 2 millions de livres sterling, car en outre les mendiants professionnels, il y a la masse des mendiants de fait, fermiers, métayers, ouvriers agricoles, avec leurs femmes et leurs enfants. Je demande donc aux hommes d'État, opposés à mes idées et assez hardis pour les combattre, d'aller d'abord interroger les parents de ces malheureux. Leur sort ne leur eût-il pas semblé infiniment meilleur s'ils avaient été envoyés à la boucherie à l'âge d'un an, de la façon que je recommande, et s'ils n'avaient pas vécu ce perpétuel drame de l'infortune que fut leur existence? Le propriétaire implacable, les termes impossibles à payer, ni en argent ni en service, les privations de toutes sortes, les hivers sans toit ni vêtements, et la certitude de ne laisser à jamais après soi qu'une misère semblable ou pire. Je veux terminer par une profession de foi. Ce n'est en aucune façon l'intérêt personnel qui me fait militer en faveur d'une œuvre que j'estime nécessaire. Je n'ai en vue que le bien de mon pays. Je recherche le développement de son commerce et le bien-être de ses enfants, le soulagement des pauvres et un peu d'agrément pour les riches. Je n'ai pas un sou à attendre de la vente de mes enfants. Le plus jeune a déjà 9 ans et ma femme a passé l'âge d'être mère. Et voilà. Merci.
Merci beaucoup, David. Ce fut une lecture de grand courage, acte de grand courage.
Malgré le rhume.
Alors, c'était la modeste proposition de Jonathan Swift. Je souligne en passant que ça a été écrit en 1729. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Je remercie d'abord notre hôte, David, qui nous accueille chaque premier lundi du mois dans sa charmante librairie, située au 565 rue Saint-Jean à Québec, et qui prête sa chaleureuse voix pour la lecture d'un texte de la littérature. Merci à notre chroniqueuse Mylène, fidèle au poste, qui reviendra le mois prochain avec un nouveau sujet aussi surprenant et intéressant. Merci à nos invités de la semaine, Jean-Philippe, qui nous a mieux fait connaître Jonathan Swift, et Roxane, qui nous a parlé du célèbre Sir Lawrence et de son implication au Moyen-Orient. Je remercie Gab Paquette pour sa généreuse prestation pour la composition de la musique thème de notre émission, et je vous rappelle son spectacle de Saint-Valentin le 14 février à la librairie. À la technique cette semaine, Anaëlle, que je remercie pour sa disponibilité et son efficacité. Et finalement, merci à Big Nick, le seul, l'unique, celui qui nous permet d'exister, car c'est bien lui qui nous accueille sur le site web de Radio Fiat Lux. Merci. Notre prochaine rencontre sera le 5 mars.